Bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être du scandale Dentexia qui a fait de nombreuses victimes il y a 5 ans. Eh bien, l'histoire semble se répéter puisque deux centres dentaires low cost ont à leur tour été fermés cet été. Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour Jacques.
Alors avec vous, on va essayer de comprendre pourquoi une belle idée, celle de créer des centres dentaires accessibles à tous dans les déserts médicaux, a parfois été dévoyée et a tourné au fiasco.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Ce sont des trous noirs sur les radios. Des vis plantées de travers, dans des mâchoires dévastées. Les dents absentes, les dents volées, mal soignées.
Voilà ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un magazine d'envoyé spécial diffusé en avril 2017 sur France 2. On y évoque la dentition ravagée d'un homme victime de ce qu'on a appelé le scandale Dentexia, un fiasco qui, il y a 5 ans, a laissé près de 3000 victimes sur le carreau. Alors Laetitia Chérel, pour commencer, on va d'abord rappeler ce que c'était Dentexia.
Alors Dentexia, ça a été une des premières chaînes de centres dentaires à bas prix en France. Elle a été fondée par Pascal Station, un diplômé de HEC, par ailleurs interdit de gestion de toute entreprise commerciale en 2001. Ces centres dentaires ne sont pas des entreprises, ce sont des associations à but non lucratif qui ne font donc pas de bénéfices. À l'époque, Dentexia dit vouloir mettre la santé dentaire à la portée de tous et pratiquer des prix trois fois inférieurs à ceux des cabinets libéraux. Et à partir de 2012, il va s'en créer une dizaine à Lyon, Chalon-sur-Saône, Colombes et Paris.
Donc sur le papier, tout ça, ça semble très bien. Sauf que l'aventure, je le disais, va tourner au fiasco.
Oui, car si les patients accourent parce que c'est moins cher, la qualité, elle, ne suit pas. Les premières plaintes s'accumulent. Mauvais diagnostic, malfaçon, implant défectueux, plusieurs centres ferment pour raisons sanitaires. Et la suite, c'est Abdel Awacheria de l'association des victimes contre Dentexia qui la raconte.
La liquidation judiciaire de Dentexia est prononcée le 4 mars 2016, laissant les patients au milieu du gué, désemparés, sans possibilité de se retourner, puisque ces patients avaient payé par avance leurs soins ou s'étaient endettés pour le faire. Et ces patients, surtout, ne savaient pas du tout quel levier activer. Donc voilà, on se retrouvait face au premier scandale de masse dans le secteur dentaire en France.
Et un scandale qui a toujours des conséquences.
Oui, 3000 victimes répertoriées à ce jour, dont 1500 ont porté plainte. Beaucoup d'entre elles remboursent toujours des soins qui ont été mal faits ou pas effectués. Des centaines ont perdu leurs implants et restent édentées. D'autres ont des infections à répétition et ne peuvent plus travailler. C'est le cas de Seloua Erbili, une esthéticienne de 46 ans qui vit à Villeurbanne et qui se repasse en boucle le jour de son premier rendez-vous.
J'en fais encore des cauchemars, je me revois rentrer chez Dentexia. Donc là, vous avez un petit jeune homme, hein, pas un dentiste, en petit costume, cravate, hein, super gentil, souriant, un jeune, qui vous dit « ouvrez la bouche ». Je lui dis « j'ai cette dent qui se déchausse ». Il me dit « ah bah faut pas arracher qu'une dent, faudra en arracher trois ». Je lui dis « ah bon ?» Il me dit « oui, il faut enlever celle-là, celle-là ». Je suis dans son bureau, hein, on n'est pas dans un cabinet, sur un fauteuil dentaire, ni rien. Donc là, il me dit « bon, ben, je vais vous faire un devis. Ça fait 14 000 euros, alors on va arracher les trois dents, on va mettre les implants et après on met les dents. En juin, c'est fini, on pourra boire le champagne, Madame Erbili, vous inquiétez pas, vous aurez un sourire de star en trois fois ».
Ouais, sauf que ce beau conte de fées qu'on lui raconte, il va tourner au cauchemar.
Oui, quand elle arrive à son deuxième rendez-vous, Seloua est confiante, mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.
J'entendais mes os casser, j'entendais craquer, et je pleurais, elle me dit « arrêtez de pleurer, vous allez me faire pleurer avec vous hein. ». Je me lève, je vois, j'ai...
Là, vous enlevez votre dentier, c'est ça ?
Ben, je me lève du fauteuil, je suis comme ça, madame. J'ai plus de dents. Et là, je lui dis, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dit, non, mais c'était normal. Je devais les arracher parce que vos dents, elles bougeaient. Donc, là, elle me recoue. Elle me recoue avec plein de fils noirs, tout. Et elle me met directement un dentier. Donc elle savait qu'elle allait m'arracher toutes mes dents.
Ouais, ça c'était donc il y a 6 ans, mais aujourd'hui elle en souffre encore.
Oui, car on lui a fait ensuite une greffe osseuse qui s'avère être un désastre. Des nerfs de la joue sont touchés, les sinus percés, ce qui lui provoque des infections encore aujourd'hui.
Je saigne du nez régulièrement, je me vide de mon sang, parce que tout est ouvert. Vous voyez là, hein, il fait bon. Ben moi j'ai l'impression de respirer un glaçon là. Et l'été, c'est pareil, la chaleur me fait souffrir. Donc ni l'été ni l'hiver, je suis soulagée. Quand l'été il approche, là je me dis ça va me compresser ma tête et tout, je vais souffrir. Et enfermé ici, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser quelqu'un m'ont tué ma vie, m'ont pourri ma vie. Ça fait 7 ans, je vis comme ça, je sors plus, je vis plus. Bien sûr, si je vous montre les photos, comment j'étais très jolie, c'est pas de la prétention. J'avais que ça, j'avais pas d'enfant ni rien, j'avais que mon visage à m'occuper. Je venais de payer mon école 2000 euros. J'ai pas pu travailler maintenant, je veux ni me baisser, ni mettre ma tête en arrière. Plus ces saignements, l'écoulement, alors je vais aller où comme ça? Ma vie, c'est un cauchemar, comme je l'aurais dit, j'ai fait le deuil de l'esthétique. Mais c'est les douleurs que je portais pas. J'ai plus de vie, ils m'ont pourri ma vie, ils m'ont tué.
Ouais, c'est terrible hein, ce qu'on entend là, Laetitia. Mais comment on a pu en arriver là?
Eh bien, tout part du modèle économique que Pascal Station a élaboré. Quand il était consultant auprès de dentistes libéraux, il leur apprenait à rationaliser leurs gestes pour gagner plus d'argent. Rien de mal à cela, mais avec les centres dentaires, il a poussé la logique bien plus loin.
C'est-à-dire ?
Eh bien, tout d'abord, il a fixé des objectifs de chiffre d'affaires aux dentistes. Et pour les atteindre, des commerciaux appelés pudiquement des conseillers cliniques devaient vendre les traitements les plus chers aux patients. Alors, précisons que la direction de Dentexia a toujours nié l'existence de ces objectifs chiffrés, mais une ancienne conseillère clinique soutient, elle, qu'ils existaient bien. Elle tient à rester anonyme. Nous avons donc fait lire ses propos.
On devait faire 80 000 euros par dentiste et par mois. 80 000 euros par dentiste et par mois, c'est énorme. En termes de salaire, on avait un fixe et une prime de 500 euros par mois si on avait atteint cet objectif. C'était une pression de tous les instants. On nous faisait des points commerciaux toutes les semaines et un par mois pour nous demander où est-ce qu'on en était et pourquoi on n'avait pas encore atteint tel objectif dans la semaine. Attention, il te reste encore 3 semaines, il faut que tu fasses tant, etc.
Ah oui, quand elle dit il faut faire tant, c'est-à-dire 80 000 euros par dentiste.
Oui, et cette somme, c'est 2 fois le chiffre moyen d'un dentiste libéral, sachant qu'il y a plusieurs dentistes par centre.
Oui, mais alors, on fait comment pour faire rentrer autant d'argent?
Alors, d'abord, selon cette commerciale, on ne soigne pas ceux qui appellent pour une simple carie ou pour des soins peu coûteux. On leur dit qu'on les met sur une liste d'attente, mais en fait, il n'y a pas de liste d'attente. Idem pour les enfants, dont les soins prennent plus de temps. Enfin, on vous fait des facilités de paiement et on vous propose de signer un crédit sur place.
On nous forçait la main, il fallait absolument qu'on fasse signer des crédits aux patients. On nous apprenait à transformer les rendez-vous avec les clients positivement pour qu'ils disent oui au plan de traitement qu'on leur proposait et qu'ils ne réfléchissent pas. Le but, c'était vendre.
Ouais, vendre. Et pour ça, il y avait toute une mise en condition des salariés.
Oui, chaque soir, les dentistes avaient droit à un débriefing collectif. Et pour les commerciales, c'était 1 fois par semaine. Quand les résultats étaient au rendez-vous, leurs responsables les félicitaient dans des mails collectifs en les gratifiant d'un petit surnom, les « Pump It Up Girls », qu'on peut traduire par « les filles qui donnent tout ». Écoutez ce qui est précisément écrit dans un de ces mails que nous avons fait lire.
Hello les Pump It Up Girls, un bravo tout particulier à toute l'équipe du Centre Saint-Lazare. Les résultats des 3 fauteuils sont 97 000 euros, 101 000 et 121 000 euros. Bravo, bravo, bravo. Globalement, tous les fauteuils de tous les centres montent et sont proches de l'objectif.
Là, on est satisfait parce qu'on a fait un gros chiffre, sauf que parfois, c'est l'inverse.
Effectivement, quand le chiffre d'affaires est en dessous des objectifs, là, c'est la grosse pression, comme dans cet autre mail.
Nous venons de faire une très mauvaise semaine côté vente. Il vous reste 6 jours d'ouverture pour vendre et atteindre vos objectifs. Merci de faire le point sur vos encaissements financiers et de transformer vos rendez-vous positivement pour essayer de contrebalancer au mieux vos résultats. Je sais que tous les mois, en fin de mois, vous décollez et vous vous arrachez, mais là, je compte sur vous pour faire encore mieux. Vous êtes les Pump It Up Girls.
Ouais, les Pump It Up Girls, sauf que tout ça, bah, ça a quand même tourné au fiasco.
Oui, en 2018, 2 ans après la liquidation de ces centres, Pascal Station est mise en examen, notamment pour violence volontaire et escroquerie en bande organisée. Et l'homme d'affaires n'a pas encore été jugé.
Et qu'est-ce qu'il dit de tout ça, lui, aujourd'hui ?
Nous l'avons contacté, mais il n'a pas donné suite à notre proposition d'interview. Jusqu'ici, il a toujours nié toute infraction et a dénoncé un acharnement, je cite, de la part de l'Ordre national des dentistes.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors on a vu ce qu'a été le scandale Dentexia, Laetitia Chirel. À ce moment-là, on se dit, bah, plus jamais ça. Sauf que vous avez identifié d'autres situations comparables et beaucoup plus récentes.
Oui, c'est notamment le cas de la chaîne Proxy Dentaire, gérée par Jean-Christophe Marie, un cinquantenaire, couvreur de formation. Ces 2 centres, situés en Bourgogne-Franche-Comté, ont été suspendus en juin dernier par l'Agence régionale de santé.
Et pour quelles raisons ?
Alors, dans un premier temps pour des manquements aux règles d'hygiène, mais en juillet dernier, une seconde inspection de l'Agence régionale de santé conclut à l'existence de mutilations volontaires sur des patients. Ce retraité en est une victime. Un jour, il doit changer de prothèse et il va chez Proxy Dentaire parce que c'est moins cher que chez son dentiste habituel. Mais au lieu de lui arracher 3 dents comme prévu, on les lui enlève toutes et dans des conditions qui posent question.
J'ai pas eu d'anesthésie. Ils m'ont enlevé les dents comme ça, direct. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà la dernière. Et la dernière, soi-disant, ils ont eu du mal à l'avoir. Ils ont été au moins une demi-heure à la chercher.
Et vous avez eu mal ?
Ah bah j'ai, oui, ah bah j'étais toute boue dans, sur le... J'étais debout, je voulais les tuer. Et puis voilà, je suis reparti, j'avais plus de dents, j'avais plus rien. Et j'avais mal.
Et suite à cela, le centre lui fait un dentier qui n'est pas adapté à sa mâchoire et qui lui blesse les gencives. On lui propose alors de lui poser 4 implants, ce qu'il refuse. Il se retrouve donc aujourd'hui sans dents du bas, contraint de ne plus sourire et de manger de la nourriture sans consistance.
Ouais, il n'est pas le seul dans ce cas-là.
Eh bien non. Au total, 73 plaintes ont été déposées. Et parmi ces plaignants, il y a Romuald Aubrin, 53 ans. Suite à un abcès, on lui enlève toutes ses dents à l'hôpital de Dijon. Il va ensuite chez Proxy Dentaire pour se faire poser un dentier. Et son calvaire commence quand il l'essaie.
Les dents partaient devant, les autres comme ça. Normalement, les dents, ça se met bien comme il faut. C'était affolant. Je ne pouvais pas fermer la bouche. Chaque fois que je fermais, je me mordais les lèvres. Elles étaient aplaties, ça me pissait de sang de partout. Donc, j'ai une autre dentiste qui arrive. Elle va sur le dentier, elle prend la meuleuse, elle met toutes les dents. Et je lui dis, vous faites quoi ? Ben, elle me dit, je les enlève, elles sont trop hautes. Elle me dit, si, on va l'ajuster, on va le mettre. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Elle reprend la meuleuse, elle prend le palais, elle m'en enlève la moitié. Elle me dit, non, il faut le temps que vous habituez, qu'elle me dise, parce que les lèvres, elles se sont enfoncées, qu'elle me fait. J'ai repris un autre rendez-vous pour refaire un réglage. Toujours pareil, ça allait pas. Quand elle m'a remis le dentier, donc elle a continué à meuler, et elle m'a dit, votre dentier, il est foutu.
Et depuis cet épisode, Romuald n'a plus de dents.
Je mange de la purée, de la soupe. Je peux faire que ça, je peux pas manger de barbecue. Je peux pas inviter du monde chez moi, je peux rien faire, en fait.
Pourquoi ?
Ben, parce que ça me dérange de voir les gens venir chez moi, puis me voir comme ça, quoi. Moi, ça me freine, en fait, ça me bloque. Quand on a un enfant, aujourd'hui, qui vous dit que c'est quand tu vas mourir, papa, non ? J'ai voulu me suicider à cause de ça. Heureusement que j'ai ma femme et mes enfants, hein, j'ai oublié.
Ouais, là encore, c'est assez terrible. Mais tout ça n'a pas que des conséquences sur la santé ou sur le moral des patients, Laetitia. Ça a aussi des conséquences financières.
Oui, parce que certains patients qui avaient laissé des chèques d'acompte avant la fermeture des centres ont eu la désagréable surprise de les voir encaisser cet été. Écoutez Laetitia Baudot. Elle a créé le collectif des victimes de proxy dentaire. Sa mère a fait un chèque qui a été débité alors que ses nouvelles dents n'ont pas été posées.
Ma propre mère attend depuis 7 mois ses dents de devant. Elle avait laissé un chèque d'acompte. Malgré la fermeture administrative, le chèque a été encaissé. Un chèque de 593,20. On a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour escroquerie. La banque l'a remboursé, mais c'est au bon vouloir des banques. J'ai une personne qui a dû vendre sa voiture, elle a vendu son téléphone. On lui a encaissé 3000 euros pour une prothèse qu'elle attend. Elle n'a plus de dents, elle n'a plus de sous. Elle mange au Secours catholique à l'heure actuelle.
Et ça n'est pas tout, Laetitia. Vous avez aussi enquêté sur les méthodes de gestion du centre.
Oui, ce centre a notamment employé une assistante dentaire, Léa Cluchier, une jeune femme de 22 ans qui a travaillé 4 mois à Chevigny-Saint-Sauveur avant d'être licenciée par un simple SMS. Elle m'a expliqué que lors de son entretien, elle avait bien prévenu les gérants qu'elle n'était pas qualifiée pour ce travail.
Ils m'ont expliqué le travail d'une assistante dentaire, donc je leur ai réexpliqué une deuxième fois que j'avais pas de diplôme, que bah
vous
après
avez quoi comme diplôme ?
J'ai un CAP petite enfance, donc complètement l'opposé du dentaire. Ils m'ont dit par oral et non pas par écrit qu'ils pouvaient nous faire une formation sur 6 mois pour avoir le diplôme d'assistante dentaire. On nous a fait une formation de 15h à 17h en nous expliquant comment faire. C'est les seuls conseils qu'on a eu pendant les 2 heures.
Effectivement, ça peut sembler un peu léger, mais vous avez découvert encore autre chose.
Oui, à partir de 2019, Proxy Dentaire a recruté quelques jeunes dentistes en Tunisie pour venir travailler dans ces centres en France. Tous avaient obtenu leur diplôme dans une université roumaine, un diplôme reconnu dans l'Union européenne. Ils pouvaient donc exercer sur notre territoire en toute légalité.
Et donc ?
Eh bien, sur le papier, on leur promet un salaire de 56 000 euros brut par an, plus une voiture de fonction, une fortune quand on sait que le SMIC est à 100 euros dans leur pays. Et puis on leur vante les équipements dernier cri des centres proxy dentaires en Côte d'Or et à Belfort. Mais ces jeunes vont vite déchanter. Farah Ayadi, une jeune dentiste de 32 ans, tombe de haut lorsqu'elle arrive en France.
Quand on est arrivé, il n'y avait rien. C'était en cours de construction. Et pour me loger, ils m'ont donné un appartement. Après, qui s'est avéré que c'est une sous-location. Une dame est venue un jour, elle m'a dit c'est mon appartement. J'avais peur, j'ai rien compris. Je lui ai répondu, madame, non, mais j'habite ici, je vous passe l'employeur qui m'a donné cet appartement.
Oui, donc c'est une douche froide qu'elle prend, mais ça n'est que le début.
Oui, car ces jeunes dentistes ont signé un contrat étrange avec une société intermédiaire, Doctonarial, basée à Tunis et qui recrutait des praticiens pour proxy dentaire. Or, ce contrat comporte des clauses étonnantes.
C'était noté que je devais travailler minimum 5 ans avec proxy dentaire, sinon je paye 100 000 euros. Et mon père, il paye 50 000 euros. C'est beaucoup d'argent en Tunisie. Et c'est pas tout le monde qui a 160 000 dinars de côté.
Ah oui, donc en cas de départ, elle devait indemniser son employeur à hauteur de 100 000 euros. Et son père devait verser, lui, 50 000 euros.
Oui, car il a signé une caution solidaire par laquelle il s'engage à indemniser l'employeur si sa fille ne reste pas 5 ans chez Proxy Dentaire. Or, elle a quitté le centre en février 2021. Il craint donc qu'on lui saisisse sa maison alors qu'il a déjà dépensé beaucoup d'argent pour payer les études de sa fille.
J'étais un fonctionnaire, je travaillais, je soignais les pauvres, les veuves et les orphelins. J'ai travaillé jour et nuit, je ne me reposais jamais pour lui rassembler cet argent pour faire ses études.
Ouais, donc lui, il a peur qu'on lui réclame 50 000 euros. Mais ces contrats signés en Tunisie pour pouvoir travailler dans un centre dentaire en France, Laetitia, ils sont légaux ?
Eh bien, apparemment non. Nous les avons fait examiner par un avocat spécialiste en droit du travail en Tunisie, maître Amin Triki, et il est formel.
Ce qui n'est pas normal, c'est d'imposer à une personne une durée de 2-5 ans pendant laquelle il n'a pas le droit de démissionner, alors que la convention collective cadre, eh bien, elle mentionne expressément que la démission, c'est un droit, à condition qu'elle ne cause pas un dommage notable à l'autre partie contractante. Donc, ce genre de clause, il est considéré commettant des clauses abusives, et c'est des clauses qui sont nulles et non avenues, et contraires aussi au code de déontologie des médecins dentaires.
Ouais, donc lui, il considère que tout ça est illégal. Mais alors, qu'en dit la fameuse agence qui a été créée à Tunis et qui recrute ses dentistes?
Alors, je suis allée à son adresse, à Tunis, mais sur place, personne n'avait entendu parler de doctonarial. Comme sur la porte, il y avait le nom d'une autre société, je l'ai appelée et on m'a répondu que doctonarial n'avait pas de bureau et que cette adresse n'était en fait qu'une boîte aux lettres.
Et une boîte aux lettres pour qui?
Eh bien, selon la fiche que nous nous sommes procurés au Registre national des entreprises tunisiennes, son dirigeant n'est autre que Kevin Guéné.
Et c'est qui, Kevin Guéné?
Eh bien, c'est le trésorier du centre Proxy Dentaire, en quelque sorte le bras droit du gérant des centres, Jean-Christophe Marie. Il y a donc clairement un lien entre Proxy Dentaire et cette agence qui lui facture ses services.
Ouais, des services parfois assez étonnants.
Oui, par exemple, elle fait payer 4000 euros pour l'inscription des dentistes tunisiens à l'ordre français, alors que cela ne coûte en réalité que 400 euros.
Bon, et le gérant de Proxy Dentaire, il en dit quoi, lui?
Alors là encore, je lui ai proposé de répondre à mes questions, mais je n'ai eu aucune réponse. Jusqu'ici, il a toujours dénoncé un supposé complot de l'Agence régionale de santé et de l'Ordre des dentistes contre son centre.
Ok, donc ça c'est pour Proxy Dentaire. Maintenant, on le disait Laetitia, il y a encore d'autres exemples de centres qui posent question.
Oui, notamment sur la Côte d'Azur, à Cannes et à Saint-Laurent-du-Var, où les centres Dental Access sont ouverts en 2015. À l'époque, ils communiquent à grand renfort de publicité sur, je cite, « l'excellence dentaire à prix éthique ». Mais dès 2016, le centre fait l'objet de plusieurs signalements.
Et puis en mars 2018, un drame va avoir lieu.
Oui, une patiente de 75 ans fait un arrêt cardiaque au centre. Réanimée sur place par les secours, elle meurt 2 jours plus tard à l'hôpital. Le centre avait prévu de lui enlever 17 dents et de lui poser 14 implants. La famille de la patiente a porté plainte. De son côté, la gérante du centre estime que ce décès a été instrumentalisé dans le but de lui nuire.
Ouais, dont acte. Sauf qu'en marge de ce décès, d'autres patients vont se plaindre.
Oui, et parmi eux, il y a cette femme qui a commencé des soins en 2017 chez Dental Access, mais elle apprend au même moment qu'elle souffre d'une inflammation des vaisseaux sanguins du cerveau, ce qui nécessite un traitement médical assez lourd que nous décrit son avocate, Maître Aurélie Vincent.
C'est l'équivalent d'un traitement à peu près par chimiothérapie, donc il faut absolument pas d'infection dans le corps, y compris au niveau dentaire, pour que ces traitements qui visent à attaquer les défenses immunitaires puissent être mis en place. Donc on lui remet un courrier à présenter à son dentiste pour que celui-ci s'assure de l'absence de foyer infectieux et que les soins puissent commencer.
Donc le message est transmis, sauf que la demande de l'hôpital n'aurait pas été entendue par le dentiste.
Lui, de son côté, lui dit « Mais écoutez, il y a des soins dentaires à faire, ils sont urgents, ça ira vite, tout ira bien, donc on fait ça rapidement et comme ça, après, vous pourrez commencer votre traitement. » Les soins commencent. Ces soins, en fait, ils sont importants et au fur et à mesure, on lui en rajoute. Elle a des extractions de dents, elle a la pose d'un bridge... Elle a la pose d'implants, elle a des greffes osseuses, tout cela n'était pas du tout prévu dès le départ. Donc, elle se laisse piéger par ce calendrier où, une fois que les soins sont commencés, elle est obligée de les avancer.
Et d'avancer précisément 27 000 euros.
Et ça se termine comment?
Alors, le dentiste atteste que la patiente n'a pas d'infection, mais l'hôpital en trouve une. Le traitement de la patiente est donc à nouveau retardé, mais heureusement, ça n'aura pas de conséquences sur sa santé.
Ouais, et chez Dental Access, on vous répond quoi là-dessus?
Eh bien, la gérante estime que lorsque les soins dentaires ont démarré, le dentiste n'avait pas connaissance du traitement de sa patiente pour le cerveau. Elle demande donc une contre-expertise. Il n'empêche, la patiente, elle, a déposé plainte contre le dentiste qui a été radié de l'Ordre des Alpes-Maritimes. Le centre, lui, a fait faillite et au total, ce sont une cinquantaine de plaintes qui ont été déposées à l'Ordre des dentistes.
Et on va s'interrompre un moment là-dessus, Laetitia, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Restez surtout avec nous dans quelques instants. On va voir qu'autour de certains de ces centres, s'est mis en place tout un écosystème extrêmement lucratif.
Saying I love you.
Des accents de John Baez, un côté folk et country, c'était Certainty, Certitude, le dernier single du groupe américain Big Thief.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Alors on a vu comment dans les cas de dentexia et de proxie dentaire, des patients ont souffert. Mais ce qu'on n'a pas encore expliqué, Laetitia Chérel, c'est qu'autour de certains de ces centres, s'est mis en place tout un système assez rentable.
Oui, alors je rappelle que ces centres sont des associations à but non lucratif. Sauf que certains responsables de ces associations créent des sociétés privées qui facturent leurs services à ces mêmes centres. Cela peut aller de la location de locaux aux achats d'équipements lourds et de matériel dentaire, en passant par la gestion des ressources humaines.
Et ces sociétés satellites, en quelque sorte, elles font des profits.
Oui, et ce système a même été dénoncé en 2017 par une mission de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, dans son rapport sur le scandale de Dentexia dont on parlait au début. Nous en avons fait lire un extrait.
La mission s'interroge sur la transparence financière de ces associations et de leurs sociétés satellites, souvent dans une opacité financière qui n'est contrôlée de façon globale par aucun service de l'État. Leur organisation pourrait relever de sanctions pénales. Par exemple, le président d'une association peut exercer cette fonction à titre bénévole. En même temps, il peut être rémunéré par une société dont l'association est la seule cliente, donc par de l'argent provenant de l'association dont il est président.
D'accord, donc ça c'est ce que disait l'IGAS il y a 5 ans, et apparemment on en est toujours au même point.
En tout cas, il semble que ce soit le cas dans une autre chaîne de centres dentaires. Elle s'appelle Clinadent, elle détient une quinzaine de centres un peu partout en France et compte en avoir une quarantaine d'ici 2-3 ans. Selon un document de travail confidentiel que nous nous sommes procurés, la direction des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur soupçonne l'existence d'un système de fraude fiscale dans ses centres à Marseille.
C'est-à-dire ?
Eh bien, selon ce document, 3 familles gèrent les centres de soins dentaires et les sociétés qui gravitent autour. Mais ces sociétés ont, toujours selon la direction des finances, une utilité quasi exclusivement fiscale.
Il ressort de l'ensemble des informations exposées le mécanisme global de fraude suivant. Les structures satellites diminuent le résultat fiscal des centres Clinadent et les vident de leur trésorerie. Elles permettent enfin aux associés concernés de déclarer des revenus importants exonérés d'impôts sur le revenu.
Bon, et qu'en disent les responsables qui sont mis en cause ?
Philippe Yacharel, le chirurgien dentiste qui a fondé Clinadent, nous a répondu dans un mail que les services facturés par ces sociétés satellites ne constituent en rien une fraude fiscale et il conteste la totalité des points relevés par l'administration.
Bon, en tout cas, Laetitia, ce qu'on constate, c'est qu'autour de ces associations, et ça n'est pas contestable, sans but lucratif, il y a parfois des sociétés beaucoup moins désintéressées.
Oui, selon plusieurs spécialistes, ces sociétés satellites ont dévoyé l'esprit de la loi Bachelot qui avait été votée en 2009 pour favoriser le développement de ces centres. C'est en tout cas ce que pense Abdel Awacheria de l'association contre Dentexia.
Cette forme associative très particulière était censée garantir que les bénéfices issus de l'exploitation du centre de santé ne soient pas redistribués à des actionnaires. Donc l'idée, c'était évidemment de prémunir le système contre toute velléité de marchandisation de la santé. Or, les effets de la loi Bachelot sont mal anticipés. Et c'est l'exact inverse qui se produit lorsque Pascal Stechen fonde Dentexia en 2012.
Ouais, Dentexia et sa galaxie de sociétés privées, on l'a vu. Mais il y a d'autres dérives qu'on a identifiées.
Oui, à l'origine, ces centres devaient s'implanter dans les déserts médicaux, les endroits où les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Or, dans les faits, on les trouve dans des zones très peuplées et dans lesquelles il y a déjà beaucoup de dentistes. Le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales l'avait également relevé en 2017.
Il y a très peu d'ouvertures de centres dans des lieux sous-dotés, à quelques exceptions près. La majorité des ouvertures de centres se fait en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Île-de-France, surtout sur Paris et les Hauts-de-Seine, dans des lieux surdotés où vivent des personnes d'un haut niveau de vie, demandeurs de soins d'implantologie, plus rémunérateurs.
Ça commence à faire beaucoup quand même tout ça, Laetitia. Alors, comment le système a pu dériver à ce point-là?
Eh bien, écoutez à ce sujet Essam Emmer, le président du syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Lui estime que la loi a permis de donner des autorisations à ces centres sans qu'on soit assez vigilant.
Ce qui existait avant, c'est qu'il y avait quand même une visite sur site avant l'ouverture. Et ça, ça a disparu. Et à mon avis, c'est le point déterminant de l'évolution de la législation. Et aujourd'hui, ce qui est possible pour une ARS, c'est uniquement faire une visite de conformité a posteriori, une fois que l'autorisation a été donnée, mais elle n'est plus obligatoire, elle n'est pas systématique. Et les moyens humains ne sont pas suffisants pour absorber l'ensemble de cette activité. Dans un monde idéal, il faudrait peut-être revoir la réglementation pour peut-être revenir à un régime d'autorisation d'exercer un contrôle là a priori, c'est-à-dire avant ouverture, qui permettrait d'éviter certaines dérives.
Mais alors pourquoi on ne le fait pas ?
Eh bien, parce qu'on n'a pas les moyens de tout contrôler. On manque d'inspecteurs, nous dit encore Essam Emmer.
Il faut savoir qu'il y a 8000 personnes qui travaillent au total dans les ARS. Et si on s'intéresse à la part de ces agents qui sont vraiment affectés à des missions d'inspection-contrôle, 6% du temps de travail de ces agents est consacré à ces activités d'inspection-contrôle. Et donc, en équivalent temps plein, ça correspond à 500 personnes sur 8000. Si on s'intéresse spécifiquement aux contrôles qui sont réalisés dans le secteur des soins de ville, la part des agents qui va être affectée à ces missions d'inspection-contrôle, elle n'est plus que de 0,4% des effectifs totaux. Ça correspond à peu près à 33 personnes sur 8000 agents.
Ouais, 33 sur 8000, effectivement, ça ne fait pas beaucoup. Donc on n'a pas assez de moyens, c'est ça?
Oui, et c'est ce qui fait dire à Abdel Awacheria, le président de l'association contre Dentexia, qu'on a raté une occasion de créer de vrais centres dédiés aux patients modestes dans des zones abandonnées.
Le problème qui est posé par le low-cost dentaire, c'est pas simplement le fait d'un individu isolé. À notre sens, c'est un problème qui est devenu structurel. Parce qu'on a une démultiplication de ces centres de santé qui pullulent un peu partout, qui s'installent dans les galeries de centres commerciaux, qui reprennent des boulangeries, etc. Et ne s'implantent plus du tout dans les zones qui correspondaient à l'esprit de la loi. Il faut aussi réfléchir à ça. Et donc éviter par tous les moyens que ces centres à but non lucratif se mettent à fonctionner comme des sociétés commerciales déguisées.
Et les pouvoirs publics, Laetitia, ils en disent quoi?
Alors nous avons posé la question à Olivier Véran et officiellement le ministre de la Santé dit vouloir se saisir sérieusement du problème.
Ces centres-là, c'est de l'escroquerie, c'est un danger public et je veux agir avec l'ensemble des agences régionales de santé que j'ai réunies vendredi dernier pour leur dire de me faire la liste exhaustive de tous les centres identifiés pour les empêcher de développer d'autres centres et pour qu'on les attaque en justice.
Le ministre hausse donc le ton pour sévir face à ces centres déviants, mais pour l'instant, personne n'envisage de changer la réglementation ni de renforcer les moyens de contrôle.
Et ce sera le mot de la fin, en tout cas pour aujourd'hui. Merci Laetitia Chirel. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut aussi la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Anne-Laure Cochet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.